Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous retrouvons Louis Albrand pour continuer nos chroniques sur les personnages importants hauts alpins et les femmes importantes hautes. Alpine. Bonjour Louis.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un grand peintre. Le Dauphiné et notre région a donné à la France de grands artistes. Je pense au subtil et sarcastique Stendhal, près de Grenoble. Je pense au violent et dramatique Berlioz, lui aussi près de Grenoble. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'intime et génial portraitiste Fantin Latour, qui a révolutionné son domaine artistique. Donc le génie peut surgir de tous les lieux, et même dans la France périphérique, comme certains Parisiens appellent aujourd'hui des départements comme les Hautes-Alpes. Pour le peintre Fantin Latour, il prend naissance à Arvieux, modeste village du Queyras, au pied du Col d'Isoire, bien connu des passionnés du Tour de France. Les hameaux de Arvieux, notamment les Escoyères, habitaient depuis l'époque romaine. La Chalpe, Brunissart, le coin d'Arvieux, mais aussi les alpages de Furfande et de Clapeto sont bien connus de nos amis randonneurs. Le village est dominé par le pic du Béal Traversier, 2910 mètres, qui le sépare de la commune limitrophe de Saint-Crépin. Les maisons de Mélèze avec balcons et galeries peintes sont une curiosité touristique. Il y a une tradition minière en 1400, il y a déjà des hauts fourneaux à la Fusine. Malgré les rigueurs de l'hiver, le village se développe. Hélas, en 1685, à la révocation de l'édit de Nantes, un tiers, je dis bien un tiers, de la population émigre en Suisse et en Franconie, dans la région de Nuremberg. La maison des Fantin est ancienne, du 15e siècle, elle est aujourd'hui le siège du parc régional du Queyras. Dans les archives, on trouve en 1490 l'aïeul direct du premier Fantin, Panéras Fantin, qui est notaire. Son fils, Chaffré, reprend l'étude, puis lui succède François, à nouveau Chaffré, Daniel André, qui est lui aussi notaire en 1600. Donc une ancienne lignée de notaires delphinaux. Son fils Jean-François épouse une jeune fille de Briançon, où le couple s'installe. La jeune mariée est une Belon, et le domaine de sa famille est appelé de Latour. Le fils du couple s'appellera donc Fantin Latour. Il sera avocat à Briançon et épousera une grenobloise qu'il rencontre en allant plaider au tribunal de Grenoble, car il est avocat. Ce couple donnera naissance en 1759 à Jean-François Fantin Latour, qui est le grand-père du peintre. Les racines de notre grand artiste sont donc bien haute-alpines et solides, anciennes, enracinées dans la terre de nos Hautes-Alpes. Chez Jean-François Fantin Latour se manifeste pour la première fois, dans la lignée, un don pour la nature. Il est peintre amateur, primé à Grenoble, où il expose. Il a des enfants. Donc la génération suivante, c'est-à-dire le père du peintre mondialement connu, vivra de son pinceau. Il épouse en Savoie une jeune aristocrate russe qui participera activement à l'éducation artistique du jeune prodige. Henri Fantin Latour, donc, qui naît le 14 janvier 1836. Les archives de l'état civil de Grenoble notent son baptême dans la belle collégiale de Saint-André le 15 janvier 1836. Son nom complet de baptême sera Ignace Henri Jean Théodore Fantin Latour. Son prénom usuel sera Henri. Afin de mieux vivre de son art, grâce à une clientèle élargie plus aisée, et pour profiter des relations de la capitale, le couple, ambitieux, qui veut réussir, s'installe à Paris. Henri a 6 ans. Il va profiter du foisonnement artistique et culturel de la capitale des années 1840. Au collège de Saint-Germain-des-Prés, il s'initie au dessin puis à l'aquarelle. C'est à ce moment que le destin frappe et le met en contact avec un pédagogue de génie, Lecoq de Bois-Baudran, qui développe son don exceptionnel de mémoire visuelle. Ainsi, il peut rapidement intégrer les Beaux-Arts en 1854. Dans ce temple de la peinture, il se prend d'amitié pour Edgar Degas. Il se retrouve chaque jour dans l'atelier de Gustave Courbet, rue Notre-Dame-des-Champs. Il est déjà un peintre connu et épouse en 1867 une Normande, Victoria Dubourg. Il a la chance d'avoir une belle famille qui l'apprécie, le soutient, et une belle mère qui l'adore, ce qui n'est pas évident. Henri Fantin Latour est rapidement célèbre. Il peint en 1864 son hommage à Delacroix, puis son fameux autoportrait que l'on peut voir dans le musée de Florence. 2 autres autoportraits sont célèbres, celui du musée de Grenoble, 1859, et celui du Louvre, que l'on peut voir facilement à Paris, 1860. Ses hommages aux poètes Verlaine et Rimbaud, 1872, et aux musiciens autour d'un piano, 1885, sont bien connus de tous les visiteurs du Louvre. Les natures mortes, fruits et fleurs complètent son œuvre exposée dans les plus grands musées du monde. Il meurt à Paris à 68 ans. Ses amis artistes, écrivains, musiciens assistent à ses obsèques au cimetière Montparnasse où l'on peut voir sa tombe. Tout le Paris intellectuel et artistique de l'époque est présent à son enterrement. Tandis que Fantin Latour disparaît, arrive à Paris un jeune peintre qui vient lui aussi de la région de Grenoble. C'est Jules Flandrin. Il immortalisera les paysages merveilleux du massif de la Chartreuse et du Grès-Givaudan. Lui aussi sera un grand portraitiste, comme en témoigne son portrait de Wolfgang Amadeus Mozart. Plus tard, encore, un autre grenoblois qui a passé son enfance à Figeac imposera aussi son talent à Paris. Sa famille a ses racines à Champoléon, en Champsaur, près de Saint-Bonnet, avant de s'installer dans le Valbonnet. C'est Jean-François Champollion, le découvreur hiéroglyphe. Voyez, chers amis, que notre terre a engendré d'immenses génies et continuera à produire des talents.